نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد فإخوتي الكرام نشرع بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه في قراءة ما يتيسر من كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد اخترنا شرحا لشيخنا الفضيل فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. فندخل مباشرة في شرح هذا المتن العظيم. Donc on commence bien Allah Ta'ala aujourd'hui par la grâce d'Allah et son soutien bien Allah la lecture du livre dans lequel Cheikhun Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala a expliqué la risala du Cheikh de l'Islam Ahmed Taqiyuddin Abu Al-Abbas ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى انتتولي العقيدة الواسطية العقيدة الواسطية. Mais avant que l'on débute بإذن الله on va prendre comme habitude de lire une partie du texte avant chaque dars بإذن الله تعالى. Et je propose à tous ceux qui voudraient lire, que ce soit de mémoire ou en lisant yani, de le faire bi'idhnillah ta'ala. Donc qui est-ce qui veut lire inshallah ta'ala? Pour ceux qui ont le texte sous les yeux, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors ceux qui l'ont mémorisé, masha'Allah. Mohamed.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليه وسلم تسليما. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
والإيمان
بالقدر خير بالقدر خيره وشره.
نعم. حسبك بارك الله فيك. بالقدر ليس بالقدر.
بالقدر.
نعم. Qu'est-ce qu'il veut dire, inshallah? Donc je recommande fortement à ceux qui peuvent et n'est là de le mémoriser. C'est vrai, il n'est pas très facile à mémoriser, mais c'est possible. C'est possible, alhamdoulilah. Donc celui qui peut, inchallah, c'est très bien. Non. Sinon, de temps en temps, yani, celui qui veut lire, comme il a fait le frère Mohammed, hafidhahullah, yani, il est le bienvenu, inchallah. Ça y est. Le son. Ah, quand il disait,
Inch'Allah.
Parce qu'après moi je vais le répéter dans le chat. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ابتدأ المصنف رحمه الله كتابته أو كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة التوبة أو براءة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ بها في مكاتباتها أو في مكاتباته صلى الله عليه وسلم أي مراسلاته. Donc l'auteur رحمه الله تعالى Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, commence son épître, son ouvrage, par ce qu'on appelle Al-Basmala. Donc Al-Basmala, c'est la formule Bismillahir Rahmanir Rahim. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, l'auteur a commencé son ouvrage par la Basmala, afin d'imiter et de suivre premièrement, le livre d'Allah Azza wa Jal, Al-Qur'an, étant donné que toutes les sourates du Qur'an commencent par Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, excepté une seule, qui est la sourate Bara'a, qui est la sourate Bara'a. Et deuxièmement, afin de suivre la sunna d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a lui aussi, lorsqu'il a écrit des messages et des lettres destinées, que ce soit au gouverneur ou autre, eh bien, il a commencé par la basmala, par al-basmala. Wa qawlu bismillahi. Al-ba huna lil-isti'ana. Al-ba lil-isti'ana. Wa l'isti'ana hiya talabul awn. طلب العون من الله تبارك وتعالى والاسم في اللغة ما دل على مسمى الاسم ما دل على مسمى وعند النحويين الاسم هو ما دل على معنى في نفسه أو على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينبغي أن يقدر متأخرا ليفيد الحصر والله علم على الذات المقدسة ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لفظ الجلالة الله علم على الذات المقدسة ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين مشتقا من أولها يؤله أولوها بمعنى عبد يعبد عبادة مشتق من أولها يؤله ألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة. فالله إله بمعنى مألوه أي معبود. Donc, بسم الله. الباء الباء لا 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 lettre باء ici. Donc بسم الله بي avec la kasra. Elle a pour fonction ici الاستعانة. C'est-à-dire la demande de l'aoun, de l'aide. La demande d'aide à Allah tabarak wa ta'ala. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, lorsque il débute son ouvrage par la bismillah, on a dit, c'est pour suivre le Coran et le Karim, pour suivre la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais également pour demander l'aide à Allah. Pour demander l'aide à Allah tabarak wa ta'ala dans son ouvrage, ou dans l'écriture de son ouvrage. Ou al-ismu, donc bi-ismi, bismi. Al-ism, on traduit par le nom. Dans la langue arabe, c'est une chose qui désigne celui ou celle qui est nommé. Hein? C'est logique. Le nom sert à désigner le ou la nommé. Ça y est? Mais chez les grammairiens, c'est plus précis. Chez les grammairiens, l'ismo est une des trois catégories de mots qui existent dans la langue arabe. Hein? L'ism, thumma, al-fi'l, wa al-harf, ahsantum. Dans la langue arabe, il y a trois catégories de mots, pas quatre, trois. Soit le mot c'est un ism, un nom, soit c'est un fi'l, un verbe, soit c'est un harf. Comment on dit en français? Une particule. Donc là, c'est plus une particule. Parce que lettre, en français, une lettre, c'est une lettre. Tandis que là, harf, hein, ça peut être ala, fi, min, etc. Idem, on va dire particule. El muhim, donc chez les grammairiens, el ismo, le nom, c'est ce qui va servir, c'est ce qui va indiquer un ma'na, un sens. D'accord? Il a un sens, ce ism. En lui-même, il a un sens. Il a besoin de rien d'autre pour avoir un sens. D'accord? Il a besoin de rien d'autre pour avoir un sens. Babun, ism. D'accord? En lui-même, il a un ma'na. Il a un ma'na en lui-même. Il a besoin de rien d'autre. Tayyib. Wa lam yakhtarim bi zaman. Et chez les grammairiens, le nom, il n'est pas lié à un temps de la conjugaison. Quand tu dis Babul, ici il n'y a pas la notion ni de passé, ni de présent, ni de futur. D'accord? Contrairement au fi'l, contrairement au verbe. L'isme, lui, il indique, il a un sens, et il n'est pas lié, ou plutôt, il ne désigne aucun temps particulier. Aucun temps particulier. Ça, c'est chez les grammairiens. On passe, donc on continue encore dans la grammaire. El-jaru ou el-jaru ou el-majruru. Ici, qui peut nous dire c'est quoi dans ici, bismillahi, el-jaru ou el-majruru? Ça, c'est la base, les frères. نعم أخي. الباء نعم. أحسنت. donc الجار حرف الجار ici c'est حرف الباء. d'accord. le باء on dit de lui que c'est حرف الجار particule de جار. on ne traduit pas les termes grammaticaux, ça sert à rien. و المجرور ici c'est اسمي. d'accord. اسمي. Et Allah, la Dhul Jalala, hein? Mudaf il, ismi mudaf, wa la Dhul Jalala mudaf il. Al muhim. Donc ces bismi, ils sont ici attachés à une chose qui est implicite, qui est sous-entendue. qui n'est pas dit par l'auteur explicitement et qui est situé après la basmala. D'accord ? Qui est situé après la basmala. C'est-à-dire que lorsque l'auteur ici il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, il y a quelque chose après qu'il n'a pas écrit mais dont il a mis l'intention. يعني بسم الله الرحمن الرحيم اكتب مثلا j'écris ou بسم الله الرحمن الرحيم je commence ou بسم الله الرحمن الرحيم hein, imagine que toi tu commences quelque chose, tu dis بسم الله, et bien tu sous-entends quelque chose, d'accord, parce que la formule بسم الله seule sans qu'il n'y ait rien d'implicite ne veut rien dire. Ce n'est pas une jumla mufida. Pour que ce soit une jumla mufida, une phrase qui a un sens, il faut obligatoirement qu'il y ait un sous-entendu. Un muqaddar, un takdir ici. D'accord ? Donc selon ce que tu vas faire et ce que tu vas entreprendre comme acte, eh bien par exemple, bismillahi akhruj. D'accord ? Je sors par exemple. Bismillahi akhruj. Mais tu ne vas pas le prononcer verbalement. D'accord ? Mais bien sûr, c'est sous-entendu. Est-ce que c'est bon ? C'est compris ou là c'est charabia ? C'est bon ? Ça y est. De toute façon, on ne va pas rentrer en détail hein, dans la grammaire. Puis Allah. Donc Allah, les frères, c'est obligatoire, il est obligatoire que le musulman sache ce que veut dire hein, le nom de son Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, c'est un alam, un nom. Un nom servant à nommer et à désigner l'être sacré qui est Allah tabaraka. L'être sacré, pur. Et il veut dire celui qui possède al-uluhiyya wal-ubudiyya. Celui qui possède Al-Uluhiyya, la divinité. L'attribut de Al-Uluhiyya, la divinité. Wal-Ubudiyya. D'accord ? Donc l'Ubudiyya, on ne va pas le traduire, ça ne sert à rien. C'est-à-dire celui auquel toutes les créatures sont soumises. Hein ? Non, ça vient de l'adoration, l'ibada, c'est vrai. Ou alors, on peut dire celui qui possède seul le droit d'être adoré. Hein? Celui qui est adoré. Ma'bou, c'est celui qui est adoré. Mais l'uboudiya, c'est une sifa. C'est une sifa. De l'uboudiya, celui qui possède l'uboudiya. Gardez les termes en arabe, c'est mieux. Gardez-les en arabe, mais comprenez-les. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de traduire, en vérité. L'important, c'est de comprendre ce que ça veut dire. Al-Ubudiyya, c'est-à-dire Allah Jalla wa Ala est celui seul auquel toutes les créatures sont soumises, sont assujetties. Taw'an ou karhan, qu'elles le veuillent ou pas. Ça veut dire que ça ne concerne pas seulement Al-Mu'min. Al-Kafir, il est soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Kafir, même si lui ne croit pas en Allah, il n'adore pas Allah tabaraka wa ta'ala, il est soumis à Allah. Limadha li'anna al-ubudiyya, comme a dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qu'on qasimu la thalat d'ahsan. Al-awwal, al-ubudiyya, العامة وهي عبودية الربوبية اكتبوها هذه فائدة جليلة عبودية الربوبية وهذه لكل الخلق لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ويذكر في ذلك الكافر. Donc pourquoi on dit que l'ubudiyya ça concerne pas seulement le croyant, mais ça concerne aussi toutes les créatures. Car il dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, je vous conseille d'écrire pour pas oublier bi'idhnillah, même si je sais maintenant il y a des enregistrements alhamdoulillah qui facilitent. Al-Muhim, il dit que l'ubudiyya se divise en trois. Il y a trois types de ubudiyya. La première, ubudiyya amma, global, général. On peut appeler aussi ubudiyya al-rububiyya, la ubudiyya de la seigneurie, c'est-à-dire la soumission à Allah ou la soumission à la seigneurie d'Allah tabarak wa ta'ala. Et cela concerne al-kafir. Pas que le mu'min, ça concerne aussi al-kafir. Toutes les créatures sont concernées, toutes les créatures. Allah ta'ala est dit dans le sens rapproché, tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre, yani, viendront à Ar-Rahman, à Allah tabarak wa ta'ala, en tant que abd, en tant que serviteur, en tant que soumis à Allah tabarak wa ta'ala, qu'elle le veuille ou pas. D'accord ? Al-Kafir, il est soumis à Allah, il est soumis à la mort, il est soumis à la soif, à la faim, hein, au chaud, au froid. Donc qu'il le veuille ou pas, il ne sort pas de cette seigneurie. Al-Qism al-Thani, al-Ubudiyya al-Khafa. Walakin taqul, Ubudiyya al-Ta'at al-Amma. Ubudiyya al-Ta'at al-Amma. لقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا عباد الرحمن من هم؟ هم الذين تعبدوا لله تبارك وتعالى بشرعه فهذه العبودية تعم كل من تعبد لله بشرعه La deuxième catégorie c'est celle que l'on appelle la ubudiyya spécifique. Elle est spécifique. On peut l'appeler également la ubudiyya de l'obéissance générale. De l'obéissance générale. Il dit Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens rapproché, et les serviteurs de Ar-Rahman qui marchent sur terre avec humilité. Donc c'est qui marche sur terre avec humilité? C'est ceux qui adorent Allah tabarak wa ta'ala. Qui adorent Allah à travers la législation, en obéissant à Allah tabarak wa ta'ala. Donc eux, ils sont concernés par cette ubudiyya, le croyant, le muslim, le mu'min, il est concerné par l'ubudiyya, al-khasa. Voyez, wa huna ubudiyya, khasatul khasa. Khasatul khasa. Wa hiya ubudiyyatur rusul. عليهم الصلاة والسلام. قال جل وعلا عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنتم في ريب ممن نزلنا على عبدنا على عبدنا. وقال في الآخرين من الرسل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فهذه العبودية المضافة إلى الرسل عبودية خاصة الخاصة لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية أبدا. Il y a une troisième catégorie, celle que l'on appelle عبودية plus spécifique que la spécifique. Elle est plus spécifique que la deuxième. Encore. Et c'est celle qui concerne les messagers et les prophètes. Alayhi salatu wassalam. Donc lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala parle de Nuh et qu'il dit innahu kana 'abdan shakura, il était certes un serviteur reconnaissant. Est-ce que al-'ubudiyya de Nuh elle est comme la nôtre? Non, abadan. Elle est meilleure sans aucun doute que la nôtre. Lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala est dit dans le sens rapproché, et si vous doutiez de ce que nous avons descendu sur notre serviteur, en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que l'uboudiyya de Muhammad est comme la nôtre? Abadan. Lorsque Allah tabarak wa ta'ala parle de l'uboudiyya de Ibrahim, de Ishaq, de Yaqub, est-ce qu'il est comme la nôtre? Abadan. Donc, l'uboudiyya des messagers, c'est celle qu'on dit qu'elle est khasatul khasa, plus spécifique que la spécifique. Pourquoi? Parce que personne ne peut rivaliser avec eux parmi les créatures. Personne. Au niveau de l'uboudiyya. On pourrait dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de donner une troisième catégorie? Pourquoi on ne s'en tient pas à deux catégories? On fait rentrer dedans, dans la deuxième, on fait rentrer les messagers, les prophètes, les croyants. À quoi ça sert? C'est quoi la faïda? La faïda, c'est que parmi les mutasawwifs, parmi les soufis, hein, certains ont la croyance que des créatures qui ne sont ni prophètes ni messagers ont une adoration meilleure que les prophètes et les messagers. Ils ont la croyance que ceux qui ne sont pas messagers ou prophètes sont meilleurs que les messagers et les prophètes. C'est pour ça que certains d'entre eux ne font même plus la prière. Ils ne prient plus. Ils boivent de l'alcool, ils font zina. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils ont atteint el-yaqin. Et ils croient qu'ils ont donc dépassé un niveau supérieur aux prophètes et aux messagers. C'est pour ça qu'il est important de citer cette troisième-là et de dire que la uboudiyya des messagers n'est pas comparable à la nôtre, en aucun cas. Voilà. C'est clair, les frères?
Oui.
Pour les akhawat, les sœurs, parce qu'il se peut que les sœurs n'ont pas compris un point du dars, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais elles peuvent par exemple écrire les questions concernant le dars, bien sûr, les questions sur le dars sur un papier et nous les transmettre, et on pourra, inshallah, pourquoi pas, essayer de clarifier ce qu'elles n'ont pas bien compris. Donc les akhawat, inshallah ta'ala, on va faire comme ça, bien. Non, donc une faïda ici. Pourquoi? On revient à la basmala. Pourquoi on dit que la chose qui est sous-entendue est située après la basmala? C'est-à-dire bismillahi aktub, bismillahi aqra, bismillahi af'al, kada wa kada. Parce que cela va indiquer une chose qui est importante, qui est le hasr, qui est la restriction. Qui est la restriction. C'est-à-dire que lorsque tu commences par la basmala et que tu sous-entends la chose après la basmala, eh bien, tu dis en vérité, je ne demande l'aide qu'à Allah et à Allah seul dans ce que je vais faire. Il n'y a personne d'autre. Alors que si tu dis, ou si tu implicites, Aqra'u bismillah, Aktabu aktubu bismillah, Af'alu bismillah. Ici, il n'y a pas de hasr, il n'y a pas de restriction. Il se peut que tu demandes l'aide à Allah et à quelqu'un d'autre. D'accord? Alors que si tu commences par la basmala, il y a le hasr. Yufidu al-hasr. Hein? D'ailleurs. Et Allah tabarak wa ta'ala, son isme, il est dérivé du verbe alaha ou uliha ici. Celui qui est adoré. En gros, uliha yu'lahu, celui qui est adoré. D'accord? Et ubida yu'bad. Donc Allah tabarak wa ta'ala, ilahu, c'est une divinité. Ici, ilah, il a le sens de ma'lour. Et ma'lou, il a le sens de ma'boud, celui qui est adoré. Donc si on te demande faïda, qila lak, ma ma'na lafdil jalala Allah, taqul alamun, ala dhatil muqaddasa, bi ma'na dhu al-uluhiyya wal-ubudiyya ala khalqiyya. Barakallahu fikum, retenez, mémorisez ça. Mémorisez le sens du nom de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ismani Karimani min Asma'ihi al-Husna. دالاني على اتصافه بالرحمة على ما يليق بجلاله على ما يليق بجلاله الرحمن الرحيم. Donc, comme vous savez tous, ce sont deux noms parmi les noms d'Allah tabarak wa ta'ala. Qui vont désigner un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est Ar-Rahman. Donc ça c'est une règle aussi qu'il est bien de connaître, c'est que chaque nom renvoie à un ou des attributs. À un ou des attributs. Donc Ar-Rahman, il renvoie à l'attribut de l'Ikhwa. Ar-Rahman. Hein? Ar-Rahman. Barakallahu fikum, on va prendre l'habitude de ne pas traduire. Un maximum en tout cas. Surtout les noms d'Allah. Surtout les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut les garder en arabe. Taïeb ? Mais bien sûr en comprenant le sens. De comprendre le sens. Parce que ce n'est pas juste des noms qui n'ont pas de sens. La abada. C'est des noms qui ont des sens et qui impliquent des actes et des attributs. Naam, donc Ar-Rahman. On traduit souvent par miséricorde. Mais c'est quoi la miséricorde en vérité? C'est quoi la miséricorde? Non, donc ça, tu vois, le fait de pardonner. Mais est-ce que la miséricorde, c'est que ça? Est-ce que c'est que pardonner? Non. Le pardon, c'est un résultat ou une conséquence de la rahma. Mais lorsque on te demande la définition d'une sifa, tu ne donnes pas la conséquence de la sifa. Tu dois donner la définition de la sifa et pas la conséquence. Pour ne pas tomber dans l'égarement de plusieurs sectes, hein, qui ont défini justement certains noms d'Allah tabaraka wa ta'ala par leurs conséquences. Là. Et en plus, miséricorde, ça vient du latin ou du grec, j'ai oublié, et dedans, corde. Il désigne le cœur, cordé, le cœur en français. Donc c'est comme si un peu tu donnes à Allah l'attribut du cœur. Une chose que tu n'as pas le droit de faire. Donner à Allah un attribut qu'il n'a pas, le cœur. C'est pour ça que les traductions, des fois, c'est dangereux aussi. Donc miséricorde. Ar-Rahma ma hiya? Ar-Rahma hiya kama qala ahl al-ilm wa minhum lajna da'ima hiya sifatun taqtadhi isal al-masalih wal-manafi'i lil-'abd wa in karihatha nafsuh وشقت عليها فهذه هي الرحمة الحقيقية فأرحم الناس إليك من أوصل إليك مصالحك ودفع مضر عنك وإن شق عليك في ذلك مثلا من رحمة الأب بولده أن يكره على التأدب والعلم والتعلم والعمل ها؟ وأن يمنع شهواته التي تعود بضرره لكنه إذا أهمل ذلك من ولده لكان لقلة رحمته به. وإن ظن أنه يرحمه ويرفعه ويريحه، هذه كما يقولون رحمة مقرونة بجهل، ليس رحمة حقيقية كرحمة بعض الأمهات. بك الرحمة سين صفة سين أتخبيد الله تبارك وتعالى qui consiste à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse parvenir à la créature ce dont elle a besoin et ce dont elle va tirer profit. Ça, c'est la vraie rahma. C'est ça la vraie rahma. Même si ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a fait parvenir la dérange, même si ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a fait parvenir est détesté par la créature. Chez les créatures, le frère par exemple, le frère qui veut être rahim envers toi, faire preuve de rahma envers toi, c'est le frère qui va te faire profiter et qui va te donner ce qui va te profiter et ce dont tu as besoin, même si tu n'aimes pas ce qu'il t'a donné, même si ce qu'il t'a dit ou ce qu'il t'a fait ou ce qu'il t'a donné te plaît pas. À partir du moment où ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a fait ou ce qu'il t'a donné représente un intérêt pour toi, eh bien il a fait preuve de rahma. Même si toi tu ne l'as pas compris ou tu l'as mal pris. Prenons l'exemple des parents, le père ou la mère. Le père, parmi les types de rahma qu'il peut avoir envers son enfant, eh bien c'est qu'il le contraigne et qu'il l'oblige à adorer Allah, à se réveiller pour le fajr, à apprendre la langue arabe, à apprendre l'aqid, le tawhid, le contraindre à avoir un bon comportement, à bien se porter, à se comporter, à être poli, et à l'interdire aussi des choses, à lui interdire ses désirs et ses envies qui vont lui ramener que du mal. L'enfant, lorsque tu lui dis ne sors pas, ne fais pas ci, ne regarde pas telle ou telle chose, ne joue pas à tel ou tel jeu, ne fais pas ci, ne fais pas ça, la plupart du temps, hein, est-ce qu'il est joyeux, est-ce qu'il est content? Non. Il est contraint. Hein? Et bien malgré son sentiment là de contrainte, c'est une rahma pour lui. C'est une rahma ou pas pour lui? C'est une rahma pour lui. Mais lui, il ne le sait pas. Il ne le sait pas, il le saura plus tard, Inch'Allah. Ça y est? Alors que le père ou la mère qui néglige ça, qui ne dit pas à son enfant, lève-toi, c'est l'heure de la prière, va à la mosquée, va prier avec les frères, va au dars, ne regarde pas la télé, n'écoute pas la musique. Le parent qui ne fait pas ça et qui laisse son enfant, bismillah, fais ce que tu veux. Ah, il est jeune, plus tard, inchallah, quand il aura 35 ans. Là, lui, il n'a pas fait preuve de rahma. Il n'a pas fait preuve de rahma, même s'il le croit. Même s'il pense que c'est pour son bien, ou là, pour le reposer, pour l'alléger. Non, c'est pas de la rahma. Comme ils disent les ulama, c'est de la rahma accompagnée d'ignorance plutôt. Mais c'est pas la véritable rahma. malheureusement beaucoup, surtout chez les mamans, hein, croient que elles sont rahimat envers leurs enfants, alors que ce n'est pas le cas en vérité. C'est pas le cas. Si elles veulent l'être, il faut qu'elles obligent leurs enfants à faire ces choses-là. Et qu'elles leur interdisent de faire al-haram. ولذلك كان من رحمتي ارحم الراحمين من هو الله ارحم الراحمين من رحمته تبارك وتعالى ماذا ها تصليب انواع البلاء على العبد فبابتلائه وامتحانه له هذا رحمة هذا رحمة للعباد وإن شق عليهم ذلك ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه يتهم ربه بابتلائه ولا يعلم إحسان الله عز وجل إليه بابتلاء وامتحان. Regardez la rahma du plus rahim des rahimin qui est Allah tabarak wa ta'ala. Le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse descendre sur les créatures les épreuves, hein? Des tests, des examens, des malheurs, des tragédies, des catastrophes, c'est vrai ou pas? Eh bien, sachez que ça, ça fait partie de la rahma d'Allah tabaraka. Il y a un bien derrière, il y a une hikmah derrière. Et c'est un bien pour toi. Même si tu ne le sais pas. Même si tu ne le sais pas. Malheureusement, la créature, elle, à cause de son ignorance et à cause de son injustice, des fois, elle a des mauvaises pensées au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je mérite mieux. A'udhu billah. Al-mu'min, al-mu'wahid, il ne peut pas penser comme ça. Il ne peut pas avoir ce genre de pensée. Je mérite mieux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal t'a donné ce que tu ne mérites pas? Abadan. Wa ma rabbuka bidhallam lil'abid. Allah, il est ton Seigneur. Il n'est nullement injuste. Jamais. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Il n'est injuste envers personne. Au contraire, cela est une rahma pour toi. Cela est une rahma. كذلك من رحمته لنا أن يأتي بالأوامر والنواهي. Également le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous ait donné des obligations et nous ait interdit des choses. Ça, c'est une rahma pour nous. لأن الله عز وجل لا حاجة منه إلينا بما أمرنا به بل هو الغني الحميد ولا بخل منه لنا بما نهانا عنه لأنه هو الجواد الكريم. Donc parmi les types de rahma qu'Allah Azza wa Jal nous donne, le fait qu'il nous ait donné des obligations et des interdictions respectées. Et ne croyez pas que Allah Jalla wa Ala a besoin qu'on lui obéisse ou qu'il a besoin qu'on s'éloigne des interdits, que cela va rajouter quelque chose à son royaume. Donc à partir du moment où Allah n'a pas besoin, le profit revient à qui? Le profit. Il revient à toi, ya Abdullah. Pas à Allah, il revient à toi. Quand tu obéis à Allah, qui c'est qui va en profiter? C'est Allah ou c'est toi? C'est toi. Quand tu délaisses un haram, qui c'est qui en profite? C'est Allah ou c'est toi? C'est toi. Car Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin de ton obéissance. N'a pas besoin de ton obéissance. Il n'a besoin d'aucune créature, Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est lui, Al-Ghani, Al-Hamid. C'est-à-dire le riche par excellence, il n'a besoin de personne pour subsister. Et Allah Jalla wa Ala également, lorsqu'il t'interdit une chose, c'est pas par avarice ou ta'ala Allah amma an dalik. Non, c'est pour ton bien. Car Allah Jalla wa Ala huwa al-Jawad al-Karim. Tu ne pourras rien diminuer de son royaume. Même si tu ne crois pas en lui, même si tu fais du shirk et que tu meurs sur le shirk, ne crois pas que ça va diminuer quoi que ce soit de son royaume. Au contraire, ça va. Plutôt, c'est toi qui verras, yani, ta destination finale mauvaise. Qu'Allah nous en préserve. Est-ce que c'est bon, hein? C'est bon? Ar-Rahman hadihi. Donc, Ar-Rahman Ar-Rahim, Isman Kariman. Donc deux noms qui désignent l'attribut de Ar-Rahman. Une Rahma, bien sûr, qui s'y est à la majesté d'Allah tabarak wa ta'ala. Hein, on dit Ar-Rahma allati taliqu bi jalali wa 'azamatihi, qui s'y est à sa majesté et à sa grandeur. Ar-Rahman, yaqul Sheikh Al-Fawzan, hafizahullah, ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات هذه هي الرحمة المتضمنة في اسمه الرحمن وهي الرحمة العامة لجميع المخلوقات والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. Donc Ar-Rahman, c'est quoi la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Donc il y a plusieurs paroles à ce sujet. Celle qu'a choisi de citer le Cheikh Al-Fawzan ici, c'est que Ar-Rahman, c'est celui, donc Allah, c'est celui qui possède l'attribut de Ar-Rahma Al-Amma, la Rahma générale, globale, qui englobe toutes les créatures. Car Allah Jalla wa Ala, il est Rahman envers toutes les créatures. Rahman envers toutes les créatures, quelles qu'elles soient. ولا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم الكريم. Et il n'est pas permis à qui que ce soit de se dénommer Rahman. C'est intéressant. Seul Allah tabarak wa ta'ala peut posséder ce nom et peut être appelé comme ça. D'accord? Ar-Rahman. Il dit ici, alors que Ar-Rahim, lui, c'est celui qui possède Ar-Rahman, mais spécifique, al-khasa, et qui n'est dû, ou plutôt qui n'est donné qu'aux croyants. Qui n'est donné qu'aux croyants. Car Allah tabaraka wa ta'ala dans surat al-Ahzab, de le sens rapproché, il dit, et c'est lui qui prie sur vous. Là, je traduis littéralement. D'accord? Allah, c'est celui qui prie sur vous, ainsi que les anges,
entre parenthèses, pris sur vous afin de vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Et il est certes Rahim envers les croyants. Il est certes Rahim envers les croyants. Donc c'est pour ça que certains ulama ils disent que Ar-Rahim, celui qui possède la Rahma pour les croyants, Al-Khasa, spécifique, pour les croyants. Donc ici, je ne sais pas comment ils ont traduit dans les essais de traduction, mais « Huwallazi yusalli alaykum » qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que « Salatullahi alayna » c'est quoi la prière d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous? Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad » ça veut dire quoi?
Ahsan.
Détaille un peu plus, si tu sais.
On a bien connu.
Naam. Ça y est. Dans les autres assemblées. Naam, ahsan. Hada huwa ar-rajih. Ar-rajih, salatullahi ala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, huwa thana'uhu alayhi fil mala'il a'la.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
نعم. لا. Donc le fait que donc salatullah, la prière d'Allah tabarak wa ta'ala sur ces créatures, ar-rajihu, la parole la plus correcte inshallah ta'ala wallahu a'lam, c'est le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse les éloges de la créature. Fasse les éloges de la créature. C'est qui? Hein? Les anges al-muqarrabin, c'est-à-dire auprès des anges rapprochés d'Allah tabarak wa ta'ala. Voyez? Donc quand tu dis sallallahu alayhi wa sallam, tu demandes à Allah ça. Tu demandes à Allah tabarak wa ta'ala qu'il fasse les éloges du Nabi sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges. Wa sallam, tu demandes à Allah tabarak wa ta'ala qu'il le préserve, qu'il le protège, qu'il protège sa sunna fi dunya et qu'il le protège fil akhira à la sirat. Pour ça que les anbiya, quand ils vont passer sur la sirat, ils vont dire Allahumma sallim, sallim. D'ailleurs, donc dans le ayah, وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ, c'est-à-dire celui qui fait vos éloges, ainsi que les anges, ainsi que afin de vous faire sortir des ténèbres à la lumière, et il est pour les croyants Rahim. Non. Combien de minutes? 10 minutes? نعم. إذن الرحمة يدل أو الرحمن عفوا اسم كريم لله. الرحمن اسم كريم لله تبارك وتعالى، يدل على إثبات صفة الرحمة الخاص عفوا العامة، على إثبات صفة الرحمة العامة التي عمت ووسعت كل شيء وكل حي. وبهذه الرحمة الخاصة رحم الله تبارك وتعالى جميع الخلائق، جميع الخلائق، بحيث خلقهم، رزقهم، حفظهم في حياتهم، أعطاهم المال والولد والأمن والاستقرار، فهي عامة للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمطيع والعاصي. دونك الرحمن اتان دي نون دالله تبارك وتعالى كي désigne l'attribut, encore une fois, de Ar-Rahma Al-Amma, la Rahma globale, qui englobe donc toutes les créatures, toutes choses profitent de cette Rahma. Profitent de cette Rahma. Même si la créature n'adore pas Allah, ne croit pas en Allah, elle profite de cette Rahma. Et par cette rahma, Allah Jalla wa Ala fait donc preuve de rahma en ayant créé les créatures. Il les a créées, puis il leur a donné leur risque, leur subsistance, pour pouvoir continuer à exister et à grandir. Puis, il les a préservés, protégés. Puis, il leur a donné de l'argent, des ressources, des enfants, la sécurité, la stabilité. Donc, cette rahma-là, elle englobe elle mu'mine, le croyant, et elle kafir. Elle englobe le pieux comme le débauché. L'obéissant comme le désobéissant. Et cela nous montre aussi la valeur minable de cette dunya. La valeur minable de cette dunya. Comment tu peux courir après une dunya qu'Allah donne même à des gens qui font du shirk? Allah leur donne à des gens qui font du shirk et toi tu cours après cette dunya? Non. Donc il faut penser à ça. Car cela va faire que tu délaisses ce bas monde et que tu vas te tourner vers l'akhirah. Pour la semaine prochaine, mes frères, al-wajiba, le devoir, je veux que vous me disiez quelles sont ou quelles peuvent être les conséquences de la rahma al-khasa envers les croyants. Comment la rahma al-khasa pour les croyants peut-elle s'illustrer? Comment elle pourrait s'illustrer? Comment elle pourrait se produire? Je veux que vous me donniez des exemples de rahma envers les croyants, inshallah ta'ala. Est-ce que c'est bon, les frères? Eh quoi? C'est clair, non? Al-wajiba? Al-wajiba, l'esprit de l'Qadim, inshallah ta'ala, en ta'tou bi anwa'i al-rahmati l'khasa bil-mu'minin. Kayfa yakounu Allah tabarak wa ta'ala rahiman bil-mu'minin? Bimada? فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. بارك الله فيكم.